France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 3 juin. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les numéros d'urgence fonctionnent à nouveau après la panne géante et inédite chez Orange qui a perturbé le 15, le 17, le 18 et le 112 durant plusieurs heures hier soir. Témoignages et explications Agnès dès le début du journal après les autres titres.
La vaccination des 12 ans à partir du 15 juin pour favoriser l'immunité collective alors que l'épidémie repart dans certains départements. Nous verrons comment l'éducation nationale tente de protéger Mila. 13 de ces harceleurs comparaissent aujourd'hui devant la justice. Manger bio, est-ce nécessairement manger mieux? La réponse de 60 millions de consommateurs. Et puis les encouragements pour Benzema, actifs mais pas décisifs hier soir lors de la victoire des Bleus.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous Léa.
Et oui Nicolas, il nous avait réjouis la dernière fois qu'il était venu en matinale avec son essai sur la Révolution. Il revient avec un recueil de chroniques sur l'époque. Quand un historien quitte le passé pour nous parler de nous, du présent, eh bien c'est assez jubilatoire. Oui. Emmanuel de Varesquiel sera avec moi à 7h50.
Formidable. On se retrouvera à 8h20, Léa, pour le grand entretien de la matinale, avec aujourd'hui le secrétaire national du Parti communiste français, candidat à l'élection présidentielle, Fabien Roussel. Vos questions 01 45 24 7000.
France Inter. L'alerte a été donnée hier en milieu d'après-midi. Les numéros d'urgence pour appeler la police, le SAMU ou les pompiers ne fonctionnaient plus dans de nombreux départements. En Ile-de-France, dans le Sud-Est, mais aussi la Creuse, le Doubs, la Bourgogne ou le Loiret. La panne est à présent réparée. Nous allons y revenir dans un instant. Écoutez d'abord le témoignage du chef des urgences de CHU de Lille, Patrick Holstein. Chaque jour, le SAMU du Nord reçoit 2000 appels entre 16h et minuit. Et hier, le téléphone a brusquement arrêté de sonner.
À 16h45, il dit, tiens, c'est curieux que personne n'appelle. Ce qui n'est pas du tout habituel dans cette maison. Donc, il y a un problème. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On appelle nos amis du 18. Mince, ça ne marche pas. Lorsqu'on nous fera le bilan de cette panne, nous saurons quelles ont pu en être les conséquences. Très clairement, c'est une panne excessivement grave. Heureusement que la crise Covid est un petit peu derrière nous. Parce que si ceci était arrivé il y a très clairement un mois, alors qu'on était au cœur de la troisième vague et que les SAMU et les services d'urgence étaient submergés d'appels et de patients Covid, ça aurait été beaucoup plus complexe.
Alors rapidement, c'est la piste d'une panne chez l'opérateur Orange qui est mise en avant. Des numéros à 10 chiffres sont mis en place dans chaque département. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
Et finalement, les lignes fonctionnent de nouveau depuis environ minuit, avec encore quand même quelques difficultés ce matin.
Oui, des difficultés signalées au petit matin par nos confrères de France Bleu pour joindre tous les numéros d'urgence dans le Var. Le 15 dans les Bouches-du-Rhône, les pompiers dans le Morbihan. Il faut insister car l'appel peut passer une fois sur deux, voire une fois sur trois. Prévenez ce matin dans le 5-7 de France Inter, François Braun, le président du syndicat SAMU Urgence de France. Des perturbations peuvent persister de façon marginale et aléatoire, explique ce matin Orange, qui assure pourtant que tous les indicateurs sont au vert. L'origine de cette panne, c'est un dysfonctionnement sur un équipement technique, un routeur, on n'en sait pas plus. Une panne dont les conséquences humaines sont à ce stade très difficiles à établir, mais sans aucun doute réelles, selon Patrick Ergen, vice-président des pompiers de France et médecin urgentiste.
Toutes les 6 secondes, quelque part en France, il y a des sapeurs-pompiers qui partent. Et ce qui peut arriver, c'est quelqu'un qui est dans une situation critique, par exemple devant un arrêt cardiaque ou un accident très sévère. On craint des situations où la personne est à 30 secondes près, parce que ça arrive, et que malheureusement, ces 30 secondes ont été consommées pour réussir à nous appeler beaucoup plus tardivement que d'habitude.
Le réseau reste sous surveillance parce qu'il y a, comme le soir vers 19h, un pic d'appels le matin. La liste des numéros d'urgence provisoire à 10 chiffres reste disponible sur les sites et réseaux sociaux des ministères, services de secours et préfectures. La consigne est toujours de ne pas surcharger les lignes.
Merci Delphine Evenou. Le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État chargé du numérique qui étaient en visite en Tunisie sont rentrés à Paris dans la nuit. Réunion de crise en ce moment à Beauvau et conférence de presse attendue à 8h.
Il est 7h04. La vaccination des 12-18 ans va démarrer, Agnès, dans 12 jours.
C'est l'annonce faite hier par Emmanuel Macron depuis le Lot où il est en déplacement. Les ados pourront donc se faire vacciner à partir du 15 juin pour un été et une rentrée plus tranquille. L'objectif, c'est aussi, bien sûr, Daniel Messager, de renforcer l'immunité collective.
Sans cette vaccination, c'est dans les établissements scolaires que se retrouverait à la rentrée la population non vaccinée, un virus qui circulerait chez des collégiens, lycéens, avec un risque de reprise d'épidémie. Pour le professeur Arnaud Fontanelle, l'Institut Pasteur, il ne fallait pas hésiter.
Avec les variants plus transmissibles qui circulent maintenant en Europe, hein, le variant anglais ou le variant indien, on va avoir besoin d'une proportion de la population immunisée, c'est-à-dire soit infectée naturellement, soit vaccinée, plus importante que ce que l'on avait anticipé, pour que le virus s'arrête de circuler de façon épidémique. Et évidemment, il faudra donc que les jeunes participent à cet effort vaccinal.
L'intérêt collectif est doublé d'un intérêt individuel. Les ruptures scolaires et sociales ont entraîné des problèmes psychiques. Robert Cohen, pédiatre et infectiologue à l'hôpital de Créteil.
Nos adolescents ont beaucoup souffert de cette année scolaire en Poitiers, avec l'impossibilité de se réunir à l'extérieur de l'école. Il y a une vraie souffrance. Donc, c'est un des moyens de retourner à une sociabilisation normale.
A-t-on assez de recul sur la vaccination pour cette tranche d'âge ? Une étude de Pfizer la semaine dernière n'a montré aucun effet secondaire, mais elle ne portait que sur 2000 adolescents. Les insérer dans cette campagne de vaccination, c'est bloquer encore plus de nouvelles portes d'entrée pour le virus.
Et le chef de l'État a bien insisté hier, il faut pour l'instant continuer à respecter les gestes barrières. Quant au port du masque en extérieur, la fin de l'obligation se fera de manière différenciée sur le territoire. Car si globalement les chiffres continuent de baisser avec 2754 malades en réanimation, certains départements voient le virus circuler de nouveau. C'est le cas notamment dans les Pyrénées-Atlantiques, la Charente-Maritime, le Lot-et-Garonne, la Charente, les Landes et la Gironde. Restez prudents donc pour éviter de nouvelles flambées que l'on observe en ce moment en Asie. En Thaïlande particulièrement, l'épidémie fait des ravages dans les prisons. Une situation incontrôlable que nous raconte Carole Izou à Bangkok pour France Inter.
Avec 25 000 détenus infectés, la situation semble hors de contrôle. Elle a été révélée il y a une dizaine de jours par une jeune activiste tout juste libérée de détention préventive qui a déclaré publiquement avoir contracté la maladie en prison, forçant ainsi les autorités à tester les prisonniers. Pour Sunay Pasuk de l'association Human Rights Watch, en cachant la réalité de l'épidémie pendant des semaines par crainte de la panique, les autorités ont perdu un temps précieux.
Cette attitude a eu pour conséquence une situation qu'on aurait très bien pu éviter. Aujourd'hui, nous sommes en présence de méga-clusters dans plusieurs prisons du pays, pas seulement à Bangkok, en province aussi, et les chiffres augmentent d'heure en heure.
Une situation aggravée par une surpopulation carcérale chronique. Selon les chiffres officiels, le système accueille 2,5 fois plus de prisonniers que ses capacités. Les détenus dorment souvent entassés à même le sol, et selon les mots du ministre de la justice lui-même, il n'y a pas plus de place pour dormir en cellule que dans un cercueil. Aujourd'hui, impossible de séparer prisonniers sains et infectés par manque d'espace. La crise est telle que le ministère songe à accorder une libération anticipée à 50 000 prisonniers, notamment ceux qui souffrent de conditions médicales. Bangkok, Carole Izou, France Inter.
Un accord in extremis en Israël. Le centriste Yair Lapid a annoncé hier soir, peu avant minuit, avoir réussi à former un gouvernement de coalition. Nous serons en direct de Jérusalem dans le journal de 7h30. En France, elle est le symbole de la dérive des réseaux sociaux et de la haine en ligne. Mila, harcelée depuis la diffusion d'une vidéo polémique sur l'islam, l'adolescente a reçu 100 000 messages d'insultes, d'injures et de menaces. 13 prévenus comparaissent à partir d'aujourd'hui pour menaces de mort ou de crime. Elle a dû déménager, changer 2 fois d'établissement et doit aujourd'hui suivre des cours à domicile. Sonia Princey.
En novembre 2020, après de nouvelles menaces sur les réseaux sociaux, Mila quitte le lycée militaire où elle avait été rescolarisée. Sa sécurité et celle des 700 autres élèves ne peut plus être assurée. L'instruction à domicile semble être la seule solution. Le rectorat de Grenoble, qui la suit, propose de travailler avec elle et sa famille sur son projet d'orientation. Elle est en classe de première technologique, mais ne souhaite pas poursuivre dans cette voie. Elle veut intégrer une nouvelle filière à la rentrée prochaine. Depuis janvier dernier, le rectorat déploie une équipe pour l'accompagner dans cette réorientation. Un inspecteur pédagogique dédié est chargé d'établir chaque semaine l'emploi du temps de Mila et 6 enseignants interviennent à tour de rôle depuis 4 mois, soit à son domicile, soit à distance. Ces cours doivent lui permettre d'avoir le niveau pour la filière qu'elle vise et qu'elle pourrait suivre éventuellement en apprentissage l'année prochaine. Mais pour l'instant, aucune décision n'a été prise sur le fait que la jeune fille, qui vient d'avoir 18 ans, revienne dans un établissement scolaire. Le rectorat est prudent car les décisions judiciaires et la parution d'un livre écrit par par Mila pourrait relancer l'affaire. Publié prochainement, son livre est intitulé « Je suis le prix de votre liberté ».
Comment l'éducation nationale accompagne Mila, c'est à lire aussi sur franceinter.fr. Les députés ont adopté hier soir en première lecture le projet de loi renforçant les mesures anti-terrorisme et le renseignement. Un texte censé notamment mieux encadrer la sortie de détenus condamnés pour terrorisme qui pourront être surveillés durant 2 ans. Le texte doit à présent être examiné au Sénat.
Il est 7h10, Agnès, manger bio est-il forcément meilleur pour la santé?
60 millions de consommateurs fait le point dans un hors-série qui sort aujourd'hui. 73% des Français achètent bio au moins une fois par mois. Le magazine a donc comparé les mêmes produits de la même marque, des soupes, des pizzas, des lasagnes, des yaourts, en version bio et en version conventionnelle. Manuel Ruffez.
Analyse en labo, lecture et décryptage des étiquettes, plus de 100 références passées au crible. Les critères sont bon goût, bon pour la santé, bonne valeur nutritive. Première constatation, sur les produits dits bruts, des fruits aux légumes en passant par le riz notamment, les produits bio sortent en tête. Sophie Kouane, la responsable des hors-série de 60 millions de consommateurs.
Il n'y a pas photo, vous ne trouverez pas de pesticides, quasiment pas, dans les produits bruts bio. Or on sait, les études scientifiques ont montré que les pesticides sont des molécules qui ont une influence sur l'organisme. Donc moins on en mange, mieux c'est.
Mais plus le produit est transformé, moins le bio sort gagnant de la comparaison. Surtout pour des produits salés, pizza, ravioli, lasagne. En bio, les ingrédients sont plus chers, les fabricants en mettent moins. Le consommateur ne s'y retrouve pas.
Par exemple, les soupes Knorr traditionnelles, sont plus riches en légumes que les soupes Knorr bio, ce qui est quand même complètement contre-intuitif. Les pizzas ont une garniture bien plus importante dans les pizzas conventionnelles, tout en étant moins chères, en offrant une portion également plus importante.
Mais c'est vrai, observe Sophie Kouane, que les consommateurs de produits bio ont plutôt tendance à cuisiner eux-mêmes et achètent peu ces plats préparés.
Le tournoi de tennis de Roland-Garros, ils ont passé le deuxième tour, Stefanos Tsitsipas, Andrei Medvedev et Alexander Zverev. Ça passe aussi pour Serena Williams. En revanche, le tournoi s'arrête pour le jeune français Enzo Cuoco et pour Caroline Garcia. Et puis l'affiche du jour, ce sera bien sûr Richard Gasquet face à Rafael Nadal. Enfin, un succès prometteur pour les Bleus qui ont remporté hier soir leur match de préparation à l'Euro. 3-0 face au Pays de Galles. But signé Mbappé, Griezmann et Dembélé. Karim Benzema n'a pas marqué pour son retour au sein de l'équipe de France. Il a même raté un pénalty. Mais l'attaquant du Real Madrid a su trouver sa place parmi les champions du monde. Cédric Guillou.
Il a loupé un pénalty à la demi-heure de jeu, frappé le poteau gallois à 10 minutes de la fin du match. Pour sa 82e sélection en équipe de France, 5 ans et 8 mois après la précédente, Karim Benzema n'a pas eu la réussite espérée.
De toute façon, un match, c'est comme ça. L'essentiel, c'est de créer les occasions, gagner et faire mieux la prochaine fois pour marquer un peu plus de buts.
Et Benzema n'a donc pas marqué son 28e but sous le maillot de l'équipe de France hier. Mais l'attaquant du Real Madrid a bonifié l'attaque des champions du monde en se montrant très actif dans le jeu, disponible pour le porteur du ballon, Nadia Ben Mokhtar, la consultante de Radio France sur les matchs des Bleus.
Il a un volume de jeu intéressant, il touche énormément de ballons, il est vraiment concerné. Moi je trouve quand même que c'est très encourageant d'avoir un joueur qui produit autant d'occasions, qui crée le danger, parce qu'avant les équipes étaient très focalisées sur Mbappé comme danger de l'équipe de France. Là ça crée du danger aussi dans d'autres postes, donc pour moi franchement ce premier match de Benzema, il est très positif. Hein.
Un constat qui demandera évidemment confirmation sur la durée.
Et le prochain match pour les Bleus, ce sera contre la Bulgarie au Stade de France. Mardi prochain, match de préparation à l'Euro.
Merci Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes, quand le vaccin se déplace à la maison.